Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Soccer love.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Les Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport. Tous les lundis soirs, 20h, 21h, CFAC 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta au microphone avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine, on a du contenu un peu différent de l'habitude puisqu'on a deux chose dont on va parler. On va parler tout d'abord des actualités, ça compte pas vraiment parce que c'est tout le temps à l'émission au menu à Soccer Sport. Mais on va commencer par le CF Montréal et ensuite on va vous parler de la Football Association Challenge Cup, qui est la FA Cup, qui est une compétition anglaise qui date des années 1870, donc du 19e siècle, et elle est encore en cours. Et le week-end dernier, on a eu deux demi-finales avec deux équipes de Manchester qui participaient à ces demi-finales. Donc, on va parler de ça, vous donner un petit historique de cette compétition-là, les meilleures équipes qui ont remporté le plus de trophées et certains autres faits importants. Mais tout d'abord, on va commencer par parler du CF Montréal. Le CF Montréal qui, jusqu'à samedi soir, n'avait pas marqué un seul but à 11 contre 11 dans le jeu. Parce que le seul but qui avait été marqué, c'était du côté du Stade Olympique sur un tir de pénalité de Romel Kyoto. Donc le CF Montréal, environ 7 matchs, n'avait pas marqué dans le jeu, mis à part, bien sûr, le match contre Van Azzurri, qui était un match du championnat canadien. Et là, hier, c'était l'équipe des Red Bulls qui se déplaçait du côté de la belle ville de Montréal au Stade Saputo. Et le CF Montréal a gagné 2-0 dans un match où est-ce que le CF Montréal a bien joué, il faut le dire, et dans un match où est-ce que nos trois joueurs d'attaque ont eu une bonne connexion entre eux. Et ça fait plaisir à voir parce que ça n'était pas le cas depuis le début, surtout lors du dernier match là, de la semaine dernière contre DC United. Le CF Montréal, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait des longs ballons à Chinonso Ofor et lui, on lui disait en fait, débrouille-toi avec ça, essaye de le contrôler, essaye de déjouer. S'il y a quelqu'un à côté de toi, essaye de jouer avec lui. Mais il était tout le temps tout seul et c'était très compliqué, il avait besoin de support. Et hier, ce support, il l'a eu avec les deux nouvelles recrues du CF Montréal. J'ai nommé Ariel Lasseter et Bryce Duke, qui sont deux quand même très bons joueurs là, du côté de l'Inter de Miami à l'époque. Donc, j'ai demandé hier pourquoi est-ce qu'on s'en serait débarrassé s'ils sont si bons que ça. Parce que quand on les voit sur le terrain, on se rend compte que c'est des bons joueurs. Là. C'est des bons joueurs de ballon, techniques, rapides, intelligents, bonnes passes, etc. Et donc, j'avais oublié un certain Lionel Messi qui pourrait peut-être, éventuellement peut-être, débarquer du côté de l'Inter Miami. Ce ne sont que des rumeurs, mais on sait que Miami, c'est une ville qui est très attractive pour beaucoup de joueurs, surtout en fin d'année comme ça, en fin de carrière. Bon, Miami, c'est une ville aux États-Unis, donc c'est dans le pays, un des pays les plus populaires au monde. C'est également dans une ville où est-ce que le climat est bon, où est-ce que les plages sont belles, puis où est-ce qu'il y a aussi une bonne communauté d'hispanophones. Donc, pour un joueur comme Lionel Messi, ça ne fait pas de mal du tout. Et donc, le 11 initial hier. L'11 initial, c'était quoi du côté du CF Montréal? Eh bien, on avait M. Jonathan Sirois dans les buts, qui a fait un bon travail malgré les défaites là, dans tous les matchs que j'ai regardés. Très peu de buts accordés par Jonathan Sirois étaient des mauvais buts. Donc, il a fait un bon travail depuis qu'il remplace James Pantemis. La défense centrale à trois joueurs, on a Rudy Camacho, le patron au milieu, Waterman à gauche et Gabriele Corbeau de Naples à droite. Donc, c'est une défense à trois. Les pistons à gauche et à droite. À gauche, Ilias Iliadis et à droite, Aaron Herrera. Quand je dis pistons, ce sont des joueurs qui doivent faire l'attaque, la défense et le milieu. C'est-à-dire, ce sont des joueurs qui défendent quand... L'équipe adverse attaque et quand le CF Montréal attaque, eh bien, ils attaquent également. Donc, c'est des joueurs qui ont besoin d'une très bonne condition physique, etc. Milieu de terrain, Wanyama, le capitaine, le seul joueur désigné du CF Montréal et un certain Québécois nommé Mathieu Chouanière, qui avait plus un rôle de milieu défensif, mais c'était un peu un box-to-box hier, c'est-à-dire qu'il allait du côté de la défense, il allait du côté de l'attaque également, donc il a beaucoup couru, il a fait un très beau match, et on va en parler dans quelques instants d'ailleurs. À gauche, on avait Ariel Lasseter, en attaque, à droite, on avait Bryce Duke, et l'attaquant numéro 9 principal, Chinonso Ofor, le grand attaquant du Nigeria, qui a fait un très bon match hier. Côté New York Red Bulls, il n'y a pas beaucoup de joueurs connus à l'heure actuelle. Il y a l'international jamaïcain Corey Burke, mais ils ont un joueur désigné. Là, leur seul joueur désigné, si je ne me trompe pas, qui s'appelle... son nom, c'est Dante Van Zeer et lui, il est suspendu 6 matchs parce qu'il a dit des commentaires racistes à un joueur des San Jose Earthquakes. Vous comprendrez que j'ai essayé de trouver les mots qu'il a mentionnés, mais je n'ai pu les trouver, mais c'était quelque chose de raciste. On s'entend là, qu'il joue dans une ville et dans un pays qui est très multiethnique. Donc, pour cet international belge, ça n'a pas été quelque chose de très intelligent à faire. Monsieur Dante Van Zeer, donc suspendu pour 6 matchs. Donc hier, il en faisait un autre. Et quand on regarde les joueurs du côté du New York Red Bulls, là, on n'est plus à l'époque là, des Thierry Henry et compagnie. Là. On a Corey Burke qui est un peu connu. On a Lewis Morgan, l'international écossais numéro 10, qui est quand même bon. Ensuite, on a Omir Fernandez, milieu de terrain américain, qui est correct. Mais on n'a pas de joueurs très, très, très connus. Là. Donc c'est pas... ce n'est plus ce que c'était. Puis d'ailleurs, New York Red Bulls, à l'heure actuelle, sont 24e, un match joué, 5 matchs nuls et 3 défaites pour un total de 8 points, 6 buts marqués, 9 buts encaissés. Et donc, le match hier, ça a été un bon match. Le CF Montréal a eu vraiment des belles occasions. On a marqué d'ailleurs en première mi-temps avec un but contre son camp, mais c'est un but contre son camp que si le joueur, le défenseur Andrés Reyes n'avait pas touché la balle, c'est sûr à 100% que Chinonso Ofor aurait marqué. Et donc, on peut quand même lui accorder le but. Ça a été une belle passe de Aaron Herrera, justement, piston côté droit. Et donc, c'était un beau jeu d'ailleurs avec plusieurs passes, puis après ça, un centre à terre dans la surface de réparation, bien repris par le numéro 4 des Red Bull, Andrés Reyes, qui, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, aurait été probablement marqué par Chinonso Ofor. Côté Red Bulls, les Red Bulls ont eu ont eu beaucoup d'occasions, mais ça leur a manqué de réalisme dans la surface de réparation. Là, honnêtement, ils auraient dû marquer au moins un but en première mi-temps. Donc, le CF Montréal s'en tire avec un clean sheet, mais n'importe quelle autre équipe là, qui sait ce qu'elle fait aurait marqué quand même hier au Stade Saputo, ce qui n'était pas le cas du côté des New York Red Bulls. Quand on voit l'effectif qu'ils ont, on sait très bien, là, ils n'ont pas non plus les meilleurs joueurs de la Ligue. Et c'est comprenable. Donc, à la mi-temps, c'était 1-0 côté CF Montréal. Ensuite, en deuxième mi-temps, pas beaucoup de choses, pas beaucoup de buts. Un autre but à la 92e minute de Mathieu Chouanière qui fait une passe précise à Chinonso Ofor qui se dirige seul vers le but. Et le gardien l'arrête, mais Chouanière a fait le déplacement et puis il a été capable de remettre le ballon. Il l'a comme glissé entre les deux défenseurs. Là, ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas. Et puis 2-0 côté CF Montréal. Donc la première victoire à domicile en MLS cette saison au Stade Saputo. Là, je compte pas là, celle du Stade Olympique. Et donc ce que ça veut dire, c'est que, mesdames et messieurs, le CF Montréal, en 4 matchs à domicile cette saison, okay, c'est 3 victoires, une défaite. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a quelques semaines de ça, que moi, je pourrais juger le CF Montréal après cette longue semaine. Parce qu'encore, je le répète, on a commencé tous nos matchs à l'extérieur. Et là, sur les 4 matchs qu'on a joués à domicile, on a battu Philadelphie, qui en passant hier ont battu Toronto 4-2. On bat New York Red Bulls. On bat en championnat canadien Vaughan Azzurri, qui est certainement une équipe très dans une autre ligue, deux ligues en dessous de nous. C'est presque des semi-pro. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut mettre le terme pro. Et donc, notre seule défaite, c'est contre DC United 1-0 dans un match dans lequel, honnêtement, on aurait pu peut-être avoir le nul, mais pas plus. Ça n'a pas été un très bon match côté CF Montréal. Puis on avait accordé un but là, seulement 15 secondes après le début de la deuxième mi-temps. Et donc, ce qui veut dire que le CF Montréal is back. Et là, on va voir avec les prochains matchs qui s'en viennent, qu'est-ce qui va se passer. Parce que le CF Montréal ont un match en main à l'heure actuelle, dans l'Est, bien entendu. Et s'ils gagnent le match qu'ils ont en main, on parle pour parler là. Mettons qu'on joue le 9e match, on monte à 9 points. Et 9 points à l'heure actuelle, c'est seulement à 2 points de la dernière place qualificative pour les playoffs. Voilà. Le CF Montréal, la saison est encore longue. Il reste à l'heure actuelle plus de 26 matchs à jouer. Ça, c'est plus de 3 fois le nombre de matchs qu'on a joué. Et donc, je ne suis pas inquiet. Et en plus, petit boni pour le CF Montréal, la semaine prochaine, samedi soir, le 29 avril, mesdames et messieurs, nous nous déplaçons du côté de Kansas City, dans l'état du Kansas, bien entendu. Et nous allons y affronter la pire équipe de la Ligue, Kansas City. Avec 9 matchs joués pour Kansas City, 0 victoire, 3 matchs nuls, 6 défaites. 3 buts marqués, 13 buts encaissés. Le Sporting Kansas City, ça va mal, hash up, comme on dit, mesdames et messieurs. Alors que eux, quand on regarde leur effectif, là, surtout en attaque, ils ont quand même Daniel Saloy, international de la Hongrie, Alan Pulido, ancien international mexicain, Johnny Russell, international écossais. Donc, ils ont des joueurs. Là. Bien sûr, il y en a qui sont blessés, j'imagine, parce qu'ils devraient faire mieux que ce qu'ils ont fait à date. Là. Ça, c'est évident. Mais on a une chance d'aller chercher un autre 3 points du Kansas City. Et ensuite de ça, de Kansas City, on va recevoir Orlando, qui n'est pas non plus une des meilleures équipes de la Ligue. 2 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que nous à l'heure actuelle, mais quand même. Ensuite viendra le match du championnat canadien à Toronto le 9 mai. Et le 13 mai, à domicile, on reçoit une certaine équipe de la province de l'Ontario. J'ai nommé Toronto FC. 9 matchs joués, 1 victoire, 6 matchs nuls, 2 défaites. Voilà. C'est le plan de match pour le CF Montréal pour les prochaines semaines. Et je suis confiant, mesdames et messieurs. On va écouter après la pause publicitaire et la chanson, on va écouter les entrevues d'après-match de Mathieu Chouanière et de Jonathan Sirois qui ont été très, très, très intéressants dans leur déclaration. Puis aussi, on va aussi vous dire ce que le coach Hernan Lozada a dit, puisque je n'aurai pas l'audio, mais j'aurai quand même les mots, puisque j'étais hier au Stade Saputo, mais il y a eu un petit problème technique. Donc voilà, petite conférence d'après-match de ce côté-là. Hier, je vais aussi parler de Ilias Iliadis. Ilias Iliadis, le piston à gauche, il a eu 2 cartons jaunes, un à la 53e minute pour une faute qui méritait quand même un carton jaune. Et après ça, à la 65e minute, un deuxième carton jaune pour perte de temps. C'est un carton jaune complètement stupide de sa part. Bien sûr, l'arbitre, dans des cas comme ça, des fois il les donne, des fois il les donne pas. Donc il n'y a pas une rigueur à 100% de ce côté-là. Mais l'arbitre était en droit de décerner ce deuxième carton jaune. Et on l'a vu en sortant du terrain sur les écrans. Là, il se prenait le visage avec ses deux mains. Puis il était très déçu de ce qu'il avait fait. Il avait en fait empêché le joueur des Red Bulls de prendre la touche. Alors qu'il n'y avait pas vraiment danger. Et donc deuxième carton jaune. Et le CF Montréal a marqué un but à la 92e minute, en joie, à 10 contre 11. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, là, c'est que on a marqué... Parce que quand je dis qu'on a marqué notre premier but hier à 11 contre 11, là, dans le jeu, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai parce que c'est un own goal. Donc, si on veut vraiment pousser, là, pour pousser, c'est un but contre son camp. Je le répète, chez Nonso Force, si le joueur, le défenseur, ne la touche pas, il la met dedans. mais ça reste que dans les faits, c'est un but contre son camp. Et donc, ça veut dire qu'à 11 contre 11, on n'a pas encore, un de nos joueurs du CF Montréal n'a pas encore marqué un but dans le jeu en MLS. Mais à 10 contre 11, on l'a fait. Donc, peut-être que la prochaine fois, ça va être à 9 contre 11 qu'on va marquer, mais la semaine prochaine, je vous mettrai un petit 5$ que le CF Montréal va marquer à 11 contre 11 contre nos amis de Sporting Kansas City. Voilà, on s'en va en musique et on revient après ceci. On va y aller avec les échos de vestiaire d'après-match avec Mathieu Chouanière et Jonathan Sirois. Vous écoutez Soccer Sport sur les ondes de CFAC. Bougez pas, chers auditeurs.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
C'était l'excellente chanson italienne « Sara perché ti amo » de Ricci e Poveri. Et vous écoutez toujours Soccer Sport sur les ondes de CFAC, 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta au microphone avec vous pour encore environ une quarantaine de minutes. Donc là, on va terminer cette partie du CF Montréal. On a déjà parlé du match, de ce qui s'en vient pour le CF. Là, cette semaine, il n'y a pas de match de coupe canadienne, puisque la semaine dernière, il y avait un match de Coupe canadienne. Le mardi, c'était contre Vaughan Adjuri et le CF Montréal avait gagné par la marque de 2-0. Et donc, 3-0, pardon. Et donc, cette semaine, ben, il n'y en aura pas. Il y a juste un match samedi soir du côté de Kansas City. Maintenant, on va écouter les échos de vestiaire d'après-match avec Jonathan Sirois et Mathieu Chouanière et on revient après ceci.
Bon, pour Jonathan. Simon. Bonjour Jonathan, félicitations pour le jeu blanc. Parle-moi de ce que tu as vu de ta défensive après le carton rouge. Vous savez bien resserrer le jeu, donc ça facilite ton travail. Parle-moi de ça.
Oui, absolument. Je crois que les gars ont eu la bonne action. Tout de suite, quand il y a eu le carton rouge, au lieu d'avoir des têtes baissées, je crois que c'est des, des mots d'encouragement de plupart sur le terrain. Et c'est sûr que ça, même pour moi, en vue derrière, ça donne confiance. Puis c'était simplement de redoubler les efforts, travailler les uns pour les autres. Puis les gars ont fait des longs sacrifices devant moi. Puis je suis énormément content qu'on ait sorti de série 3 points.
That's fine. Hi, Jonathan. Throughout the season, especially the rough start, when you guys are defending deep in your box, it seemed a little frantic. And tonight, it seemed a lot more composed. You know, the ball was getting cleared out of you were clearing your lines almost immediately. Did you notice anything different today? Is it, a change in mentality? Is it just, one of those days where stuff is working?
Yeah, I think it's a bit of both. I think today it's one of those days where a lot went our way, but that comes with the effort. And when you don't make the effort, sometimes that's when things don't go your way. But today, the guys give everything. It seemed a bit easier, but I think it's also the process. It's been a few weeks where we worked a lot defensively, starting all the way back from that after that Vancouver defeat. We worked a lot defensively with the coach, a lot of video to really try to get things right, because we couldn't suffer all the time without the ball. And I think last week against DC, and even I think with the performance we did tonight, we saw that defensively we're getting more and more solid, and the guys are getting more and more confident in terms of what they have to do and how they react to every situation.
Hey, Jonathan, congratulations on the clean sheet. Did you do something different personally? Because there were two games where you allowed, I think, with like 7 goals, and you haven't had a lot of goals in the last 2 games.
Yeah, like I said previously, I think it's part of the process. I think the guys are getting a bit more comfortable without the ball. But most importantly, I think their knowledge of what they have to do and how to react to certain situations is much better. I think we've worked a lot, especially in the video sessions, defensively, about where every player should be to really reinforce our defense, and I think it showed tonight.
Jonathan, le fait que tu as dû attendre quand même longtemps avant d'avoir ce premier jeu blanc-là, qu'il y a eu des matchs moins amusants, est-ce que ça rend celui-là encore plus le fun, ce premier jeu blanc?
Ouais, ça là, je le sens énormément. Comme tu dis, c'est complètement différent de ce que j'avais eu avec mes premiers de temps pro. J'ai eu mon premier match, là j'ai dû travailler. Les gars devant moi aussi ont fait d'énormes sacrifices ce soir pour que collectivement on puisse avoir ce jeu blanc. Mais c'est sûr que celui-là, je le sens un peu plus que les autres en passé.
Une dernière, Franck, justement.
Salut, Jonathan. Aujourd'hui, tu disais que les gars, tu commences à trouver leur rythme, tu commences à trouver leur confiance. Mais le match n'est pas nécessairement entamé de la super bonne façon, du moins pour le collectif. Tu t'es interposé à quelques reprises en début de match, faisant des bonnes sorties. Est-ce que toi aussi, tu sens que cette confiance-là progresse de match en match, ou du moins que ces arrêts-là peuvent peut-être générer de la confiance pour tes partenaires?
Oui, absolument. Écoute, moi, c'est sûr que d'un côté personnel, à chaque match, je deviens de plus en plus confortable. C'est sûr que j'apprends à chaque match. Fait que ça va de soi. Mais après, je sais que c'est dans un match comme il y a eu à DC ou peut-être même New England, je veux dire que si j'ai l'air de faire certains arrêts clés, ça peut donner confiance aux gars. Puis le plus longtemps que je peux garder le 0-0, le plus confiant que les gars devant moi vont pouvoir jouer. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. Puis, ouais.
Mathieu, félicitations pour ton but. Est-ce que tu peux nous expliquer l'avance d'aller d'après une autre dimension? Est-ce que c'est, on sait que le coach l'apprécie énormément, est-ce que cette confiance qu'il donne te permet d'avoir des ailes?
Oui, justement. Le staff me donne confiance. Je joue aussi un peu partout, donc j'essaie de faire ce qu'il me demande. Puis, je suis en pleine confiance en ce moment. Je sais mon rôle, qu'est-ce que j'ai à faire dans l'équipe. Je pense que c'est pour ça que tout est clair. Donc, ça me permet d'aller par avant et de faire des trucs que je sais faire.
Mathieu, ce soir, comparativement aux deux derniers matchs MLS, beaucoup moins de déchets techniques. On dirait que les gars avaient un petit peu plus de calme. Qu'est-ce qui explique ça?
Qu'on travaille bien. On travaille bien l'entraînement. Qu'est-ce qu'on met en place, c'est plus clair. On sait plus ce qu'on a à faire sur le ballon, puis même sans le ballon. Je pense aujourd'hui, sans le ballon, on a vraiment été solidaires. Tout le monde on savait qu'est-ce qu'on avait à faire, fermer l'accès direct au but. Puis, on va se dire, Red Bull ne se font pas créer tant de chances que ça.
Hey Matthew, congratulations. You feel maybe tonight was, one was a slow start. you still had aspects of the game where things really came together tonight?
Sorry, I didn't...
Where things came together.
Yeah. We all work together and prove the results. I mean, we were working all together. We were all on the same page and it showed the results.
Hi, Vetser. Going down to 10 men is never easy, even at home. Did you guys feel like it was almost like a rallying cry? You guys kind of banded together because it felt like the defense did really commit to I mean, parking the bus, yes, but it did really commit to maintaining the lead.
Yeah, it shows all this group is together. After that, after the red card, I mean, everybody just give more energy to the team, to the player next to him, and it proved that we're all together in this and we're going forward.
Tu aujourd'hui, tu as joué au milieu du terrain avec du point jusqu'au carton rouge. Comment tu as trouvé ta cohésion entre toi, Victor, Brazdu? On semblait voir les défenseurs faire des longs ballons jusqu'à Chino au fort dans les matchs précédents, mais aujourd'hui, on sentait que vous étiez plus en association pour la transition. Comment toi, tu as vu ça passer?
Oui, on savait que Red Bull, c'est un bien jeu du deuxième ballon. Donc, il fallait être là pour les jouer et se battre sur les duels. Et c'était plus le rôle de moi et Victor pour gagner ces deuxièmes ballons, puis aller vite en transition. Je pense qu'on a réussi à faire une bonne job, puis avec Doug devant, qui nous permet justement de trouver cette première passe vers l'avant, et après c'est de continuer d'aller vers l'avant et de faire monter tout le bloc. Je pense qu'on a une bonne chimie, puis on travaille bien ensemble à l'entraînement, j'ai une bonne relation avec tout le monde. Donc, voilà.
Bonsoir Mathieu, félicitations pour la victoire. À quel point est-ce que cette victoire ce soir pourrait être un déclic pour la suite de la saison à MLS principalement?
Oui, je pense que ça nous fait vraiment du bien. Dans les premiers matchs de la saison, on n'avait pas connu des mauvais matchs, on savait créer des occasions. On sait qu'on travaille dans la bonne direction. Puis je pense que ce premier match-là, ici au Stade Saputo, ça fait du bien, ça va libérer tout le monde. Puis on va continuer à travailler fort pour justement s'améliorer davantage et de gagner des matchs.
Deux dernières, Mathieu, que ça vous gêne?
Mathieu, l'entraîneur a parlé du fait qu'il y avait 11 joueurs. Toi, tu étais là la mi-dernière, tu étais là en cette saison exceptionnelle. Tu as début de saison, c'est pas pour ça à cause de la quantité. Toi, personnellement, comment tu le vis, cette début de saison-là, après avoir vécu autant de bons moments l'année passée? Comment tu fais pour rester motivé? Dans un début de saison comme ça, tu as tout pour être motivé, tu as tout pour essayer de renverser la situation. Tout le groupe, on est comme ça, on essaie de trouver des solutions, on se parle beaucoup, on parle avec le coaching staff, séance vidéo, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un bon résultat, puis c'est sortir de là avec les trois points, parce qu'on cherche des solutions, on s'en parle, on travaille fort à l'entraînement pour justement trouver des collectifs, puis et voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé à gagner ce match-là.
Vas-y, si tu parlais de ton but, ballon un peu perdu là, en territoire défensif, qui avait... Tu avais de l'espace autour de toi, tu as monté un peu avec, puis tu l'as fourni vers au four, mais il restait combien dans le réservoir pour dire « OK, je m'envoie l'appui en arrière, que si au cas, peut-être qu'on peut finir ça comme ça? »
J'ai écrit jusqu'à la fin, j'ai enlevé toute l'essence qui restait, puis j'ai cru, puis au final, j'ai bu barre. Je suis vraiment content d'avoir marqué ce
but. Merci Mathieu.
Merci. Voilà, donc c'était Jonathan Sirois et Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière qui a été élu joueur du match, homme du match avec son but. C'est pas un marqueur, c'est pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts, mais il a vraiment donné ce match-là. C'est quelqu'un qui est utilisé dans beaucoup de positions avec l'entraîneur-chef Hernán Losada. Et puis, il fait toujours ce que l'entraîneur lui demande. C'est un des joueurs qui est souvent titulaire, d'ailleurs, avec l'entraîneur argentin. Et ça fait plaisir de voir Mathieu réussir et également marquer un but. Puisque c'est pas quelque chose qu'il va faire à tous les matchs. Et d'ailleurs aussi, il est très, très accessible, très gentil en entrevue. Donc, on le remercie pour son temps du côté de CFAC, bien entendu. Maintenant, on va y aller avec la FA Cup. On va commencer à parler de ça, cette compétition-là, puisqu'il y avait les demi-finales de la FA Cup. La FA Cup, ça veut dire la Football Association Challenge Cup. C'est une coupe d'Angleterre. Ça ne comprend pas, bien sûr, l'Écosse. Ça ne comprend pas non plus là, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. C'est une compétition anglaise. et du Pays de Galles également, là, pardon, ça comprend le Pays de Galles, j'ai dit que ça ne le comprenait pas, mais ça comprend le Pays de Galles. Il y a 732 équipes qui participent à cette compétition-là. Vous comprendrez que sur les 732, là, il y en a une énorme majorité qui n'a absolument aucune chance de gagner la compétition. Toutes les ligues, beaucoup de ligues sont invitées à faire cette compétition-là pour pouvoir essayer de la remporter. C'est la Coupe anglaise, en fait, de toutes les villes d'Angleterre. Et cette Coupe, c'est la personne qui la gagne, l'équipe qui gagne la compétition est qualifiée pour l'UEFA Europa League. Ça, c'est la deuxième compétition la plus importante du continent européen. D'ailleurs, on le sait, là, la FA Cup, c'est souvent gagné par des très grandes équipes. Très souvent, la plupart du temps, 95% des équipes, bien entendu, qui viennent de la Premier League anglaise. Et donc, souvent, l'équipe qui gagne la FA Cup ne se qualifie pas pour l'Europa League parce qu'ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Donc, souvent, ça s'en va à une autre équipe, là, soit selon le classement ou l'équipe finaliste. C'est jamais la même chose. Mais voilà. C'est une compétition qui a commencé, ça fait très longtemps, c'est une compétition très populaire puisqu'elle a commencé en 1871. Là, on est encore au 19e siècle, ça fait plus de 152 années. Donc, c'est énorme. Et cette année, on va avoir une finale avec deux équipes de la même ville, mais on va en parler tout à l'heure. Les diffuseurs côté anglais sont bien sûr BBC et ITV Sport. Du côté canadien, on a aussi, c'est aussi diffusé là, du côté du Canada. Je vais vous dire ça, je suis en train de voir l'information. C'est Sportsnet qui diffuse côté canadien. Donc, on a quand même accès à cette compétition-là sur un des postes de télé, si on peut dire ça comme ça, traditionnel. Là, ça ne fait pas partie du streaming ou quoi que ce soit. Le poste Sportsnet diffuse la FA Cup. Niveau de titre de cette compétition-là, bien, qui a gagné le plus de FA Cup? Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Au niveau des équipes qui ont gagné la compétition, la première équipe avec le plus de titres, c'est Arsenal avec 14. Ensuite, Manchester United avec 12. Chelsea avec 8. Liverpool avec 8. Tottenham avec 8. Aston Villa 7. Newcastle United, c'est 6 titres. Le dernier remontant à 1955. Manchester City, c'est 6 titres. Le premier, 1904. Le dernier, 2019. Blackburn, c'est 6. Everton, c'est 5. West Bromwich Albion, 5. Wanderers, 5. Wolves, 4. Bolton, 4. Sheffield, 4. Côté 3 titres, on a Sheffield Wednesday et West Ham United. Avec 2 titres, on a Preston North End, Old Etonians avec 2, Portsmouth également, Sunderland, Nottingham Forest et Bury. Et avec un titre, eh bien là, on a énormément d'équipes. Je vais vous les nommer par respect pour ces équipes-là. Huddersfield Town, Leicester City, Oxford United. Leicester City qui a d'ailleurs gagné la FA Cup en 2021, là ça c'était une surprise. Derby County en a un, Leeds United, Southampton, Burnley, Cardiff, Blackpool, Clapham Rovers, Notts County, Barnsley, Charlton Athletic, All Carthusians, Blackburn Olympic, Bradford City, Ipswich Town, Coventry, Wimbledon et Wigan Athletic. Il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu des finales, qui ont été en finale, mais qui n'ont pas gagné le titre. Là, parmi celles-ci, Queen's Park, Birmingham, Crystal Palace, Watford, Bristol, Luton, Fulham, QPR, Brighton and Hove, Middlesbrough, Millwall, Stoke et Hull City. Maintenant, si on parle de la compétition de cette année, tout a commencé le 5 novembre 2022 et ça se termine le 3 juin où est-ce qu'on aura la finale avec les deux équipes de Manchester. La finale, bien entendu, se passe du côté de Wembley Stadium. C'est un stade mythique du côté de Londres et le stade, bien entendu, sera plein. Il y a eu plusieurs rondes pour ce tournoi, puisqu'on sait, là, c'est souvent des petites équipes qui commencent pour essayer de se qualifier, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui y ont accès. Et pour se qualifier pour le tout premier round, là, il faut se qualifier d'ailleurs pour les qualifications pour ensuite pouvoir peut-être se qualifier. Donc pour les petits clubs, c'est très difficile. La très grande majorité ne survivent pas. Et après ça, quand on arrive là, au cinquième tour, c'est souvent des équipes de Premier League qui sont là avec des équipes des fois de deuxième division anglaise et parfois de troisième. Cette année, du côté des huitièmes de finale, on a eu les matchs suivants. On a eu Stoke qui a perdu 1-0 contre Brighton. On a eu Leicester City qui a perdu 2-1 contre Blackburn. Ça, c'est une équipe de deuxième division. Fulham a battu Leeds United. Manchester City a battu Bristol. Grimsby Town a battu Southampton. Ça, c'était une surprise. Burnley a battu Fleetwood Town et Manchester United a battu West Ham et Sheffield United, une autre équipe de deuxième division anglaise, avait éliminé Tottenham Hotspurs. Ce qui nous amenait au quart de finale du côté du 18 mars et 19 mars. Il y a eu Manchester City qui a battu Burnley 6-0. Ça, évidemment, ça a été une très grande victoire du côté de Manchester City. Victoire méritée avec des buts de Haaland qui en avait marqué 3, Alvarez l'Argentin avec 2 et Palmer avec 1. Sheffield United a battu Blackburn Rovers 3-2. Brighton a battu Grimsby Town 5-0 et Manchester United avait battu Fulham 3-1 avec 2 buts de Bruno Fernandes et un but de Mitrovic, l'attaquant serbe. Ça se passait du côté de Old Trafford avec une foule de 73 511 spectateurs pour ce match du 19 mars 2023. Les demi-finales, eh bien ça, c'était le week-end dernier. Côté Manchester City, il recevait théoriquement, là, puisque ça se passait du côté de Londres, avec 69 603 spectateurs. Il recevait, entre guillemets, Sheffield United et ils en ont fait une bouchée en les battant par la marque de 3-0 avec un triplé pour Riyad Mahrez, l'attaquant algérien, l'ailier algérien plutôt, qui est quand même considéré comme un attaquant, mais c'est un ailier, là, c'est pas un numéro 9 qui joue dans l'axe. Il a marqué 3 buts, 43e minute sur penalty, 61e minute et 66e minute. Et Sheffield United, bien entendu, retournera à la maison et ne joueront pas la finale. C'est important de spécifier que pour cette compétition-là, pour la FA Cup, les demi-finales et la finale sont jouées du côté de Wembley Stadium. Et donc, à partir des demi-finales, il n'y a plus d'équipe locale qui reçoit le match. À moins que ce soit une équipe de Londres, mais aucune équipe de soccer joue leurs matchs locaux à Londres. Là, le stade de Wembley, à Wembley, les équipes qui sont dans la ville de Londres ont tous un stade et Wembley Stadium, c'est un stade pour l'équipe nationale anglaise. Ça n'est pas un stade qui appartient à un club de soccer anglais dans lequel ils peuvent jouer des matchs réguliers, sauf pour la FA Cup, les demi-finales et la finale. Côté Manchester United, ils affrontaient Brighton & Hove Albion. Et Brighton & Hove Albion, c'est une équipe quand même qui a une très belle saison cette année, là. Ils sont dans les 10 premiers. C'est une équipe qui a notamment des joueurs champions du monde comme Alex McAllister, qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine en étant d'ailleurs titulaire. Donc, c'est pas rien. Et ils avaient une chance du côté de Wembley de pouvoir accéder peut-être à une autre coupe, une autre finale de la FA Cup depuis 1983 parce qu'ils ont accédé à la finale en 1983 et ils avaient perdu la finale de la FA Cup en 1983 contre Manchester United. Et donc pour eux, pour cette équipe, c'était une possibilité d'avoir une revanche et de peut-être accéder à une finale de la FA Cup qui pour eux aurait été un succès sans précédent parce qu'on sait Brighton & Hove Albion, là, c'est pas une équipe qui a des aspirations pour gagner le titre de champion d'Angleterre. Ils ne peuvent pas rivaliser beaucoup avec les géants, les Manchester United, les Manchester City, les Chelsea, les Liverpool, etc. Et à l'heure actuelle, dans la Ligue anglaise, ils sont 8e, 29 matchs joués avec 49 points. Ils ont 3 matchs de retard sur le 6e qui est la dernière place qui donne une place pour une compétition européenne. Ils sont à 2 points, mais ont 3 matchs en main. Donc, il est très possible que cette équipe anglaise ait accès à une compétition européenne l'année prochaine. Par contre, s'ils ont accès à une compétition européenne, ça ne sera pas à cause de la FA Cup, puisqu'ils ont perdu malheureusement 1-0 dans les prolongations, c'est-à-dire au tir au but. Ça s'est terminé 0-0 après 90 minutes, ça s'est terminé 0-0 après les 30 minutes de prolongation. Et ensuite de ça, eh bien, au tir au but, ça a été 7 tirs à 6 pour Manchester United. Ils ont tous marqué, sauf Solly March qui a raté le dernier tir du côté de Brighton. Et donc, Manchester United se qualifie encore une fois pour une finale. Et là, ça va être un match, ça va être un derby, là, Manchester City versus Manchester United. Manchester City, d'ailleurs, qui pourrait cette année gagner la Ligue des Champions? Ils sont, disons-le, là, quand même très favoris avec le Real Madrid. C'est peut-être leur année. Ils pourraient gagner la FA Cup. Et ils pourraient gagner également la Premier League. Donc, ça serait 3 titres incroyables pour le club de Manchester. Par contre, c'est très possible qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions aussi et qu'il ne gagne pas la FA Cup. Donc, c'est soit tout ou rien, là, dans un certain sens, parce que le championnat anglais, c'est pas fait. Il reste un match important contre Arsenal. S'ils battent Arsenal ou surtout s'ils ne perdent pas contre Arsenal et gagnent tous leurs autres matchs, ils seront très probablement champions. Mais c'est une fin de saison qui va être énormément rempli d'action, rempli de matchs pour Manchester City, mais ils ont l'effectif pour y arriver. Et également, cette finale-là, ça va être intéressant parce que Manchester United a gagné la Coupe anglaise, qui est une autre compétition. La Coupe anglaise, là, c'est pas la FA Cup, c'est beaucoup plus fermé, ça appartient seulement aux équipes anglaises des deux ou trois premières divisions, là. Et donc, Manchester United avait gagné cette finale-là contre Newcastle United. Donc, Manchester United a déjà un titre cette saison. Ce qui est dommage du côté de Brighton & Hove Albion, c'est qu'ils avaient dominé ce match-là, ils avaient eu les meilleures occasions et le gardien espagnol David De Gea a vraiment fait des arrêts incroyables lors de ce match. Et donc, ça l'a fait en sorte que Brighton ne puisse pas remporter ce match-là après 90 minutes. Et donc, en prolongation, Manchester United a gagné. C'est dommage parce que ces coupes anglaises-là, on aime ça parce que c'est souvent une façon pour les petits, entre guillemets, de battre les gros. Puisque souvent dans ces compétitions-là de coupe, surtout pour les grandes équipes comme Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, souvent ils font une rotation de leurs joueurs, puisque les joueurs, les équipes, ces équipes-là, ces équipes qui ont beaucoup de talent, beaucoup de joueurs, ont beaucoup de matchs. Ils jouent souvent des compétitions européennes, le championnat local, la coupe. Des fois, ils jouent deux coupes également. Donc, c'est une opportunité pour avoir des remplaçants qui jouent certains de ces matchs-là. Et donc, côté Manchester United, eh bien, malheureusement, ils n'ont pas pu laisser le tapis rouge à Brighton & Hove Albion. Ils se sont qualifiés pour la finale de la FA Cup qui va se passer en 2023, vous l'aurez compris, le 3 juin à 15h, heure de Montréal, et ça sera Manchester United contre Manchester City au Wembley Stadium. Pour ce match, côté Manchester United-Brighton, il y avait 81 445 spectateurs, mesdames et messieurs. Ça, là, c'est 400 belles remplies, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est 400 belles remplies. Et donc, les gens, côté Manchester United, ça se déplace. On peut également voir là, que pour le match de quart de finale, je l'avais dit tantôt, il y avait 73 511 du côté de Old Trafford, qui est le stade de Manchester United. Et le premier match pour le huitième de finale contre West Ham United, il y avait quand même 72 571 spectateurs. Et quand on regarde pour les 16e de finale environ, eh bien, il y avait le 28 janvier 73 460 spectateurs. Donc, Manchester United a un stade qui se remplit. C'est probablement, je crois, que c'est le stade anglais qui a la plus grande capacité. Peut-être celui de West Ham, là, puisque celui de West Ham, il joue dans le stade, l'ancien stade olympique là, pour les Jeux olympiques de Londres. Je ne sais pas c'est quoi la capacité, mais je ne sais pas si c'est un stade qui se remplit également. Donc voilà. Également, niveau statistique, pour ceux qui s'intéressent, les meilleurs buteurs de la FA Cup de cette année à date, eh bien, c'est Paul Mullin, l'attaquant de Wrexham. Il en a marqué 8. Son équipe n'est plus dans la compétition. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix par rapport à une série là, sur Wrexham qui a été racheté par quelqu'un. Donc, si vous voulez voir ça, Wrexham, c'est disponible sur Netflix. Riyad Mahrez en a marqué 5 côté Manchester City. Et Armando Dobra, l'Albanais de Chesterfield, en a marqué 4. Sinon, on a énormément de joueurs qui ont marqué 3 buts. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite présentation côté FA Cup. On vous invite à regarder le match, la finale. Ça va être un derby, ça va être un derby chaud le 3 juin prochain du côté du stade de Wembley à Londres entre Manchester City et Manchester United. Ces deux équipes-là, d'ailleurs, qui se sont affrontées très souvent dans la compétition de la FA Cup. Et donc, on verra si peut-être qu'il y aura une petite surprise. Peut-être que ça serait, par exemple, je ne sais pas, moi, une victoire de Manchester United, parce qu'on sait là que Manchester City est quand même favori, puisque Manchester City, c'est extrêmement rare qu'ils jouent un match et qu'ils ne soient pas favoris. Donc, on va voir s'ils peuvent gagner cette compétition-là. La dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était en 2019 du côté de Watford avec une foule de 85 854 spectateurs. Le record, by the way, pour ceux que ça intéresse, là, en termes de foule au Wembley Stadium, on a plusieurs foules qui sont à 100 000 places, le maximum total, mais On en a une qui a été de 126 047 spectateurs. Ça, c'était en 1922-1923. C'était une autre époque. Les standards de sécurité étaient moins présents qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait remplir des stades comme ça. Il y a eu 126 047 spectateurs en 1922-1923 pour la finale entre Bolton et West Ham. Sinon, mis à part ça, c'était du 100 000 aussi souvent là, dans les années 50, dans les années 70 également. Et puis, depuis que le stade Wembley a été rénové, parce qu'il est revenu à Wembley en 2007, avant il était au Millennium Stadium de Cardiff, et bien depuis qu'il est à Wembley, là, toutes les finales sont environ dans les 80 000 spectateurs, sauf pour celle de 2021 entre Leicester City et Chelsea. Il y avait seulement 20 000 spectateurs, vous comprendrez, pour cause de coronavirus, mesdames et messieurs. Et pour ceux que ça intéresse aussi, la plus petite foule de l'histoire de la FA Cup, c'est en 1876, entre Wanderers et Old Etonians, il y a eu une grosse foule de 1500 spectateurs, ce qui est très, 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 très peu, mesdames et messieurs. Côté Manchester United, j'ai dit que Manchester City, leur dernier titre remonte à 2019 en FA Cup. Manchester United, leur dernier titre, c'est en 2016 avec une victoire de 2-1 contre Crystal Palace. Et avant ça, la dernière victoire de Manchester United remontait à 2004 contre Millwall. Donc voilà, ceci est dit, ceci est fait. Maintenant, on va faire une petite pause. On retourne en musique avec notre nouveauté francophone de la semaine et on revient après ceci.
Ok, yes sir, ça se passe vraiment bon. Puis Saint-Jean, comment ça va?
Ça va, ça sent le printemps l'année longue. Là, tu vas voir, il y a pas mal de sauce.
C'est le temps de faire l'enfer. Tirez-vous sur la piste. On veut boire, puis manger. C'est la Saint-Jean-Baptiste. On fait couler la bière, puis ça allume des splits. À soir, c'est le party. C'est la Saint-Jean-Baptiste.
C'est la Saint-Jean-Baptiste. Je vous souhaite toute bonne Saint-Jean.
On est bon en maths. Y'en a qui sont grands sur le but. Y'en a qui sont grands sur l'air. Chacun son vibe, chacun son style. Mais tout le monde fait la Saint-Jean. Tout le monde sur la gauche à droite. Ta petite soeur boit en cachette. Ton grand frère boit la canette. Pis ton grand père boit sa tablette. Même le berger allemand est sur les fumées secondaires. Tu sais pas comment t'amuser. Moi, va te montrer comment faire.
C'est
le
temps de faire l'enfer. Tirez-vous sur la piste. On veut boire pis manger. C'est la Saint-Jean-Baptiste.
Alright, qu'est-ce qui se passe ici? So, vous pouvez la bière, vous m'avez oué trop, puis vous faites le matron. Alright, ben. Hey, hey, petit truc à faire ici pour vous autres. Check it out.
C'est le temps pour la fête. Sur la piste, ton vieux flou. On va boire, puis marrer. C'est le friggin' chazou. Boire une coupe de trop. Tout le village est sous. Au soir, c'est le party. C'est le friggin' chazou.
Les grands maids et puis les tantis sont les rockstars, c'était Tell We Set. Va des poutines rappelées en Agadie. Des poutines frites au Québec. Shouts out à la Grace. Cause quand c'est Grace ou c'est Ben. Puis quand c'est Belle, tu manges plus. Puis ça, ça te fait un bon fin. Puis quand c'est FL, tu bois plus. Puis quand tu bois plus, c'est le fun. Puis quand c'est le fun, ben on huche. Huche va avec notre chum. Tout le monde, c'est mon chum. I love everyone. Tout le monde, c'est mon chum. I love everyone. L'autre bossé, ils nous ont chippé loin. Ni dreadback, leur faisceau du trône. Cacher les violets, ouais, puis ça sonne bon. Tapis du pied, flotte sur les fronts. Appelle-moi cheesy, c'est que tu veux. Je veux vous voir, tu es bon man. Si la bière est frette, puis la twang sonne bonne. Pourquoi point fêter avec ses cousins?
C'est le temps pour la fête, sur la piste, on veut fou. On va boire, puis marrer. C'est le friggin' chazou. On fait couler la bière, puis ça allume les spliffs. La soirée, c'est le party. C'est la Saint-Jean-Baptiste.
Baptiste, nous.
C'était la nouveauté francophone de la semaine avec Saint-Han Quinzu feat le petit Billy Vu. T'es un bon petit artiste, ça, le petit Billy Vu. Le petit Billy Vu. Et l'artiste, bien entendu, c'est Fouki avec la collaboration de le petit Billy Vu. Voilà. Donc, maintenant, on va terminer l'émission avec les actualités de la semaine. Donc, on y va avec les scores du week-end dernier. On commence par vendredi, Arsenal-Southampton 3-3 à domicile du côté d'Arsenal. Ça, c'est un très mauvais résultat parce que ça fait en sorte que maintenant, Arsenal n'a plus son destin entre ses mains, mis à part le fait de gagner à Manchester City, ce qui va être extrêmement difficile. Alors que si Arsenal gagnait ce match-là, ils avaient leur destin en main toujours pour être champion d'Angleterre. Le Paris Saint-Germain a battu Angers 2-1 avec deux buts de notre ami Kylian Mbappé avec une passe de Lionel Messi. Ça, c'était vendredi. Samedi, mis à part la victoire du CF Montréal, on avait d'autres matchs. Nottingham Forest a perdu à l'extérieur contre Liverpool 3-2. Crystal Palace 0-0 avec Everton. Côté Ligue espagnole, le Real Madrid a battu le Celta Vigo de mon ami Diego Aspas avec deux buts de Marco Asensio et Eder Militao. Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1 avec deux buts. Un de Florian Lejeune contre son camp et un de Alexander Isak. Le Real Betis a perdu à l'extérieur 3-2 contre Osasuna avec deux buts de Ante Budimir du côté de l'équipe de Pampelune du nord de l'Espagne. En Italie, la Lazio a perdu à domicile 1-0. Le Bayern Munich a perdu 3-1 à l'extérieur contre Mainz. Ça, c'est une défaite qui fait très mal puisque Dortmund, avec sa victoire de 4-0 à l'heure actuelle, Dortmund est premier du championnat allemand. On le sait, cette année, côté Bayern Munich, ça a été difficile avec le départ de leur entraîneur Nagelsmann. Aussi, il y a eu la petite escarmouche entre Sadio Mané et le Roi Sané. L'élimination en Ligue des Champions. Maintenant, le championnat allemand. Parce qu'on le sait, là, il faut le dire, le Bayern Munich est un géant. Et donc, c'est un très mauvais résultat pour eux. Lens Monaco 3-0 pour les Lensois. Hier, on avait des matchs quand même intéressants. Là, l'Olympique Lyonnais a perdu à domicile 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Séville 2-1 contre Villarreal. Barcelone 1, Atlético de Madrid 0, Newcastle United 6, Tottenham 1, 6-1. Là, ça fait en sorte que pour le club de Newcastle United, cette victoire-là leur donne une très bonne chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. L'Inter Milan a gagné 3-0, l'AC Milan a gagné 2-0, Napoli a battu la Juventus du côté de Turin dans le nord de l'Italie, ce qui fait en sorte que maintenant, eh bien, Naples, mesdames et messieurs, est très 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 près d'être champion pour la première fois en presque plus de 30 ans. Et également côté Pays-Bas, eh bien, le PSV Eindhoven l'a emporté dans le match le plus important du côté des Pays-Bas contre l'Ajax d'Amsterdam par la marque de 3-0. Mais aucune de ces deux équipes-là seront champions puisque c'est le Feyenoord Rotterdam qui est premier avec 30 matchs joués et 73 points. Il reste 4 matchs à jouer dans le championnat hollandais des Pays-Bas. Pardon, pas hollandais. L'Hollande, c'est une région des Pays-Bas. Et donc, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, San Lorenzo a battu Platense 1-0. On va terminer l'émission avec les matchs à venir. Chers auditeurs, merci d'être là. On apprécie votre présence du côté de CFAC au 88,3 FM. Donc, demain, pour commencer le 25 avril, le Real Madrid se déplace du côté de Girona, comme on dit en espagnol. Le Real Madrid ne sera pas champion d'Espagne cette année. Ça va être le FC Barcelone, malgré la faiblesse de cette équipe, de l'équipe catalane en compétition européenne cette année. Ils ont quand même bien fait du côté de la Ligue espagnole. Et donc, ils seront champions. Donc, pour le Real Madrid, il n'a plus rien à jouer en Ligue espagnole. Également, mercredi, le match de l'année côté anglais, Manchester City va recevoir Arsenal. C'est à 15h. Si vous pouvez vous libérer pour regarder ce match-là, ça va être incroyable puisque le gagnant de ce match-là a des très bonnes chances d'être champion. Surtout si Manchester City remporte ce match-là. Côté Arsenal, il faut absolument qu'ils gagnent ce match-là. Ils n'ont pas d'autre choix. Demi-finale retour de la Coupe d'Italie. L'Inter Milan contre la Juventus. C'est l'Inter Milan qui va recevoir. Ça s'est terminé 1-1 au match aller. Jeudi, on a Fiorentina-Cremonense. Ça, c'est l'autre demi-finale de la Coupe italienne. La Fiorentina l'avait remporté 2-0 à l'extérieur. Jeudi, on a également Tottenham qui reçoit Manchester United. Et à 4h, jeudi le 27 avril, on a l'Athletic Club de Bilbao qui reçoit le FC Séville. Le FC Séville qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette émission de Soccer Sport. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissam Bensta au microphone pour CFAQ. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit lundi prochain à 20h. Et pour ceux qui aiment la musique de party et la musique dance, eh bien, on se revoit samedi soir à 21h sur les ondes de CFAQ pour Dance Party. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Les gars, la prod.